Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Comme vous le savez sûrement, l'école est obligatoire en France depuis 1882. Alors depuis, il y a eu des adaptations de la loi et des changements au fil du temps, mais globalement, je pense que 99% des auditeurs actuellement de ce podcast ont connu le collège et le lycée. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque j'accueille Camille, qui est prof d'histoire-géo depuis 6 ans dans les collèges et les lycées. Alors moi, perso, j'ai toujours rêvé de connaître la vraie vie de mes profs, leur quotidien et leur parcours. Et si vous aussi, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue Camille.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Bah de rien, comment ça va? T'es confortable?
Super, bah, parfait. Ça va parfaitement bien.
Parfait, parfait. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie?
Ouais, donc je suis Camille, je suis enseignante d'histoire-géographie effectivement depuis 6 ans maintenant et je suis agrégée. J'enseigne dans un petit collège actuellement de campagne, dans le nord de la Vienne, voilà, tout petit établissement scolaire. Et avant ça, j'ai été enseignante 2 ans dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Et puis j'ai fait 1 an de stage à Paris.
Ok, et est-ce que tu as toujours voulu être professeur et pourquoi spécifiquement l'histoire-géographie?
Je sais que j'ai toujours voulu travailler avec des personnes. J'ai beaucoup hésité entre le handicap et l'enseignement, aussi du fait du métier de mes parents. Et puis un petit stage troisième par-ci, une petite expérience professionnelle par-là pendant des vacances. Et je me suis dit non, le handicap, ça va être une charge mentale trop forte. Et finalement, l'enseignement, pourquoi pas? Je me souviens en seconde faire des recherches sur qu'est-ce que c'était que les concours pour devenir CPE, donc conseiller principal d'éducation, où je m'étais en fait quand même plutôt bien renseignée. Mmh. Et puis finalement, après mon bac, j'ai fait 2 années de classe préparatoire. Et alors là, l'histoire géo, c'est devenu vraiment ma passion, encore plus qu'avant. Et puis c'est vrai que moi, j'étais dans un collège qui était difficile et j'allais en cours pour les cours d'histoire géo, en fait.
C'est ça qui te motivait.
Ouais, à fond, je me disais, ah, aujourd'hui, il y a histoire, ça va le faire et tout. Et les profs étaient vraiment super. Et puis c'est vrai qu'au lycée, ça m'a vraiment plu. Et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis dit... Ouais, faut que je fasse tout pour avoir mes concours.
Et justement, quand tu étais encore en études au collège, lycée ou quoi, t'aimais aller en cours, t'aimais apprendre, ouais. T'aimais la relation avec les professeurs et tout?
Ouais, j'avais pas forcément un niveau scolaire très très élevé. J'avais un peu de dyslexie qui s'est résolue, mais c'était pas forcément l'évidence. J'avais des copines qui étaient bien meilleures que moi. Mais oui, je suis très studieuse. J'aime vraiment bien aller en classe et puis... C'est des trucs tout bêtes, mais tu vois, acheter tes petits stylos pour corriger, te poser comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert des enseignants qui m'ont ouvert sur plein de choses culturellement, des personnes qui m'ont marquée. Et c'est vrai que ça me donnait envie. Et le fait que j'apprécie quand même le lieu qu'était l'école, même si le collège était particulièrement compliqué, ça contribue aussi à, je pense, t'orienter vers les concours de l'enseignement.
Et au niveau des examens, du coup, comment ça se passe pour être professeur? Qu'est-ce qu'il faut avoir après le bac, du coup?
Alors, c'est des concours. C'est un peu différent des examens, parce que les examens, il faut que tu répondes à des questions. Et si tu as juste, tu as le point. Les concours, ça a une dynamique un peu différente. En fait, tu es classé les uns par rapport aux autres. Donc, ils prennent les meilleurs. C'est un peu comme en médecine. Et en fait, il y a un niveau d'exigence, évidemment. Mais là où, sur un examen, on va dire, bon, bah, eux, ils ont tous les deux juste. Là, c'est beaucoup aussi d'exercices réflexifs du type dissertation ou analyse de documents. Et en fait, on va voir quelles sont les meilleures copies et on va ensuite mettre des notes en lien avec ça.
Aujourd'hui, tu es dans un plus petit collège. Tu as combien d'élèves et de classes là, à gérer cette année?
Donc, moi, pour des raisons syndicales, j'ai une décharge, donc je n'ai pas toutes mes heures. Normalement, je devrais être à 15 heures de cours avec l'agrégation que j'ai eue l'année dernière. Mais cette année, je suis à 9 heures, puisque le reste du temps, en fait, je le dédie au syndicat. Mmh. Et donc, j'ai 3 classes. J'ai 2 classes de 6e et 1 classe de 4e. Et moi, j'avais très envie de me rapprocher de la ville où j'habite, pour des raisons alors un peu écologiques, parce que je prends la voiture pour aller au collège et ça fait beaucoup de route. Moi, ça me fait toujours un peu mal, même si on fait du covoiturage, de prendre ma voiture. Et en fait, pour rejoindre, enfin rebondir sur la question des effectifs, on a la chance d'être dans un tout petit collège. Il y a 230 élèves. Enfin, c'est des conditions de travail qui sont un peu inespérées, puisqu'en fait, là, actuellement, en 4e, ils sont 22. En 6e, ils sont 18.
Ah, c'est trop bien,
et
ça.
Et en fait, c'est la première. Moi, avant, j'avais des élèves, enfin des classes, où ils étaient plutôt 28.
Ouais.
Et en fait, tu fais pas du tout la même chose. Il n'y a qu'en 3e où ils sont un peu plus nombreux, mais on a vraiment cette chance d'avoir au collège des tout petits effectifs. Et là, je me suis dit, depuis quelques semaines, que j'avais vraiment l'impression de faire mon travail. Enfin, que j'avais... Il y a plein de choses qui manquent en termes de moyens, etc. Mais là, j'avais des... Je peux passer voir tous mes élèves dans une heure de cours. Je peux passer voir tout le monde. Je peux aider tout le monde. Quand j'ai 28 6e, c'est pas du tout pareil ce qui était le cas avant. Donc là, j'ai l'impression qu'on avance ensemble et qu'on progresse. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont nous, on est conscient, l'équipe dans laquelle je travaille, parce que c'est pas du tout le cas partout. Et c'est vrai que quand tu vas au lycée maintenant, qu'il n'y a plus les filières S, S ouais. et L, et ils sont des fois 36 en seconde, et c'est pas du tout pareil. Donc là, nous, on a vraiment cette chance-là. Et puis c'est vrai qu'on connaît très vite tous les élèves. Le collège, c'est un bâtiment qui est tout petit, donc c'est vrai que tu peux les surveiller tout le temps. Des fois, moi, je suis en train de travailler dans ma salle, ils peuvent passer me dire bonjour. Enfin, ça, j'avais pas ça avant.
Oui, parce qu'avant, t'étais dans des plus gros établissements.
Ouais, beaucoup plus grosse structure. Quand j'étais stagiaire, c'était une cité scolaire. Donc, tu vas de la 6e à la classe préparatoire. Donc là, un bâtiment qui est énorme.
Ah oui, là, c'est très, très gros.
On était peut-être un peu plus de 1000 élèves.
Ah oui, ok.
Donc, tu vois aussi le nombre de profs que ça fait. Ça fait des beaucoup plus grosses équipes. Nous, quand on fait la réunion de rentrée, on est au CDI, on est assis sur 20 chaises. Quand j'étais à Paris, on était dans des amphithéâtres, les réunions de profs.
C'est tout de suite une échelle différente.
Voilà. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients parce qu'il faut aussi bien s'entendre. Du coup, avec les... plus l'équipe est petite, plus il faut que l'entente elle soit aussi facile parce que sinon, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que par rapport aux élèves, c'est un confort qui est énorme.
Et tu as senti une différence de comportement entre des gros établissements de grosses villes et des plus petits collèges, plus de campagne de la part des élèves?
Moi, je trouve qu'ils sont moins violents. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de violence, mais par exemple, moi, depuis 3 ans, je n'ai pas eu une seule baston à arrêter dans la cour ou dans les couloirs.
Okay.
Alors que ça m'était arrivé en tant qu'enseignante quand j'étais dans l'Essonne. Je les trouve quand même... Je trouve que le climat scolaire est un peu meilleur de ce point de vue-là, mais je les trouve un peu moins ouverts culturellement.
D'accord.
Sur le racisme, sur la différence d'apparence, comme c'est beaucoup d'entre-soi, c'est vrai que là, on a un gros travail à faire. Moi, par exemple, ils n'ont aucune notion de ce que c'est que la religion.
Okay.
Sans juger quoi que ce soit là-dessus, moi, en tant qu'enseignant d'histoire géo, ça veut dire que je n'ai pas aussi les mêmes billes pour travailler certaines questions avec mes élèves. Alors que quand j'étais en banlieue, il y avait plein d'origines différentes. Il y avait des élèves qui venaient qui avaient des parents ou des grands-parents qui étaient nés dans d'autres pays. Et ça faisait une émulation culturelle qui était super. Et ils connaissaient aussi des choses. Moi, je me suis en discussion sur la religion un peu plus approfondie. Parce que justement, et là aussi, j'avais un rôle que là, je n'ai plus. Mais ce n'est pas grave, ça change aussi comme ça. Mais c'est vrai que le public n'est pas le même. Et puis, même s'ils n'avaient pas toujours accès à Paris... tu sentais quand même qu'il y avait plus d'imaginaire. Moi, je trouve que là, les élèves, ils souffrent d'être éloignés de tout. Cultiver l'imaginaire, pouvoir se projeter dans des choses un peu abstraites, c'est beaucoup plus compliqué pour eux actuellement.
Ils ont moins accès. Après, oui, si tu es dans une petite ville et que tu as moins de musée, tu as moins d'expos, tu as moins de clés, en fait, c'est sûr que c'est difficile. Ok, j'aurais pas
pensé. Puis... en termes de pauvreté aussi, les parents qui vivent à la campagne, ils sont beaucoup dépendants de la voiture. Donc ça accentue aussi des fois la marginalisation. Alors que malgré tout, quand tu es en banlieue, tu as quand même des transports en commun qui peuvent te permettre, même si tu as moins d'argent que d'autres, d'avoir quand même accès à des choses. Et ça, je le sens aussi beaucoup. Et puis après, ça reste des collégiens et des lycéens. Ouais. Là-dessus, ça ne change pas grand-chose.
Ils font tous des bêtises.
Oui, ils ont tous leur âge. Donc ça, c'est rassurant parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de surprises par rapport au public. Mais il y a des difficultés qui ne sont pas les mêmes et c'est vrai que ça change quand même pas mal. Ouais.
C'est quoi la bêtise qui arrive le plus souvent ou le truc qui revient je ne sais pas, un truc qu'un élève te fait les oublis de manuel, là.
Ouais, alors, moi, j'ai résolu ça maintenant. Plus de manuel à la maison. Il est en fond de salle. Maintenant, c'est parce qu'en plus, moi, je l'utilise de temps en temps, très ponctuellement, parce que j'aime bien faire mes activités. Donc, c'est vrai que souvent, t'es pris dans la fin de ton cours, et là, tu dis, ah, leur dire de ramener le manuel pour la prochaine fois, et j'ai oublié. Donc quand il est dans mon placard en fond de salle, au moins j'ai plus de problème. Mais oui, les oublis d'affaires, ou là par exemple lundi, j'arrivais pas à trouver le rythme avec ma classe sur l'heure de cours. Donc j'attends que tout le monde ait réussi enfin à être au même point. Et là, je dis, allez, c'est bon, tout le monde a collé sa feuille, super, je commence l'activité. Et non, il y en a une, elle fait tomber son cahier, la feuille se décolle, la trousse avec, je suis là, bon, allez, c'est pas grave. Ça, c'est très sixième. Après, les grands, ça va être parfois des questions qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, qui n'ont pas forcément de lien avec ce qu'on est en train de faire, parce que ça leur traverse l'esprit, et là, faut répondre à leurs interrogations, des choses comme ça. Mais sinon, puis ça peut être aussi des questions un peu pointues. Moi, je me souviens... en banlieue, une question, on travaillait sur la décolonisation en Algérie et sur la place du voile dans la société algérienne. C'est pas moi, hein, c'est un élève qui a posé la question. Bah, faut que tu aies un peu de bagage culturel et historique pour être armé face à ces questions-là, parce que c'est vrai qu'il faut leur donner une réponse. Moi, ça me semble important. J'aime pas trop laisser les élèves sans réponse sur des questions vraiment qui me semblent essentielles. Après, des fois, ça m'arrive de dire là, cette question, elle n'est pas pertinente, et puis on avance. Oui. Mais voilà, sur des choses aussi en lien avec la sexualité, des choses comme ça, des fois ça sort.
Il y en a aussi qui...
Et moi, je ne me vois pas ne pas leur répondre. Donc des fois, un petit schéma d'utérus au tableau, et puis on explique, voilà. Et ça, je trouve que c'est important. Et c'est là aussi où il faut être un peu serein avec tes connaissances et ce qu'il faut leur apporter. Puis des fois, moi, je dis, vous savez, je ne sais pas tout. Et voilà.
Et puis après, il demande au prof d'après.
Voilà, oui, ça c'est bien. Tu sais, ça c'est très compliqué. Tu demanderas à mon collègue de physique-chimie, voilà, à qui t'avais une petite vengeance à faire, ça c'est super.
Ouais, vous vous lancez un peu des piques entre vous.
Via l'intermédiaire des élèves, ouais, c'est plutôt drôle.
Et t'as un moment en particulier qui a marqué ta carrière, quelque chose où tu te souviendras de ce moment?
Bah, quand l'année de stage... C'est toujours une année qui est compliquée, même si l'équipe fait beaucoup de choses pour toi, si tu bosses à fond, c'est toujours une année de découverte. Et moi, le départ de là où j'étais en stage, je ne pensais pas que ça allait être aussi dur, mais les élèves de 6e ont été vraiment super, et même les 4e, je repense à eux avec un peu de nostalgie. L'autre jour, par hasard, d'ailleurs, dans la rue, j'ai croisé une élève qui doit maintenant être en seconde et que j'ai eu en sixième, et je l'ai reconnue avec
ça. Ça t'a fait une claque un peu.
Et j'ai pas eu le temps de lui dire bonjour et tout ça, mais je me suis dit, ah, ça a grandi de fou. Et en fait, quand j'ai fini mon année de stage, je crois pas que les parents étaient au courant, mais les élèves, ils m'ont fait un immense poster avec tout ce qu'on avait travaillé dans l'année, ils avaient tous signé. Il y avait des filles qui m'avaient offert une petite palette de maquillage de super qualité que j'ai toujours. Puis, je sais pas, un soir, il y avait une mère d'élève qui était là et. Je sais pas, c'était un soir ou une pause repas, je sais plus. Puis en fait, elle m'a dit, ah bah, venez prendre le café avec moi. Et elle m'a dit, ah vraiment, ils ont passé une année super avec vous. Merci beaucoup. Plaisir. Et ça fait plaisir. Et j'ai eu la même chose quand je suis partie de mon établissement scolaire de banlieue. Les élèves, ils se sont pris en photo, ils l'ont mis dans un cadre. J'ai eu plein de petits dessins. Et ça, j'ai une petite boîte maintenant.
De souvenirs.
Et ça, j'avoue que c'est quand même hyper touchant. Et c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup dans le second degré. Là, tu te dis que quand même...
C'est que tu fais bien ton travail, quoi.
Ou en tout cas, qu'eux, ils le vivent bien. Et ça, c'est déjà quelque chose quand on se dit... Moi, c'est ce que je leur disais encore à mes élèves hier. Moi, l'important dans ma salle de classe... oui, pour expliquer le mot valeur. Bah, moi, une de mes valeurs, c'est que dans ma salle de classe, les élèves, ils se sentent bien et en confiance et pas agressés. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et c'est vrai que là-dessus... Quand ils le verbalisent, parce que tu ne le dis pas souvent aux profs quand tu es content ou quand ça s'est bien passé. Et c'est normal parce qu'ils vivent leur vie et tout ça. Mais il ne faut pas hésiter des fois à dire à ses profs ou quand vous finissez une année ou quoi. Là, c'était vraiment super parce que nous, ça nous booste aussi.
Ouais, tu vois que tes efforts et ton organisation et tes cours, etc., c'est pas fait pour que ça soit oublié. Hop, on passe à l'année prochaine, quoi.
Ouais.
Comment est-ce qu'on pose tes semaines, tes journées quand tu rentres chez toi, tu corriges des copies, tu prépares les cours d'après? Comment ça se passe?
Moi, j'ai l'impression que même en s'organisant au max, on travaille quand même tout le temps. C'est dur de couper les week-ends parce qu'en fait, comme on a 18 heures présence élève, des fois 20 heures, en fait, le reste du temps, c'est dilué. On n'a pas 35 heures fixes dans la semaine. Moi, j'ai arrêté de compter mes heures parce que je l'ai fait au tout début. Et je me souviens, je devais être arrivée à 36 heures de travail en 2 jours et demi. Donc j'ai dit, bon, je vais plus compter mes heures, ça sert à rien. Ouais. C'était mon compagnon qui m'avait forcé à le faire en disant, là, tu travailles trop, ça, c'est pas possible. Donc, t'arrives souvent le matin. Moi, j'aime bien arriver avant parce que j'aime bien que tout soit calé. J'ai des collègues qui arrivent à prendre leur classe en arrivant 5 minutes plus tôt. Mmh. Moi, je suis pas comme ça. Et puis, en fait, il y a des matinées entières où j'ai pas le temps d'aller aux toilettes parce que je fais 15 000 trucs, un élève qui vient de parler, des photocopies. Lancer l'ordi prend du temps dans l'éducation nationale.
Les vieux ordi, ouais. Ça a toujours pas changé. Pourtant, ça fait longtemps que moi, je suis plus au collège.
Ouais, mais en fait, il faut tout allumer. Et puis, des fois, ça bug et voilà.
Avec
et
le projecteur et ouais, tout.
On peut avoir des réunions entre midi et deux aussi. Donc, ça nous arrive de manger un peu vite. La période des conseils de classe est aussi vachement chargée parce que tu as souvent ta journée de cours. Et ensuite, t'enchaînes sur les réunions le soir.
C'est en ce moment-là, non? C'est avant les vacances?
Normalement, ça doit être à peu près fini, là.
Ah, ok.
Le premier trimestre. Mais, et les réunions parents-prof, le mois de novembre-décembre est quand même souvent chargé. Vendredi soir, je suis restée au collège jusqu'à... Les cours finissaient à 17h. Je crois que je suis partie vers 18h, 18h20, parce que j'avais des coups de fil à passer, des parents à appeler. Donc, en fait... C'est aussi une grande discipline personnelle, enseignant, parce que c'est à toi de te caler. Et pareil pour les copies et les prépas de cours. Moi, je sais que quand je me mets à préparer des cours, que ce soit en partant de rien, soit en reprenant des choses que j'ai déjà faites, il faut que je me cale une plage de 5 heures parce qu'en fait, je ne m'arrête pas. Et je vois pas souvent que l'heure, elle passe et je suis à fond et j'aime bien finir vraiment ce que j'ai entamé. Après, ça, c'est moi, c'est très personnel. Il y a des collègues qui fonctionnent aussi différemment. Mais tu as toujours du boulot, en fait, des choses à faire. Et puis, même quand tu sors sur les sorties culturelles ou quand tu vas au cinéma ou à un musée ou quand je traîne dans des librairies, je ne peux pas m'empêcher de dire « Ah, ça, ce serait bien pour mes cours.
Ouais. »
Et ça, c'est une vraie déformation professionnelle, c'est que tu ne coupes jamais vraiment, en fait. Tu te dis toujours « Ah, ça, ce serait vraiment trop bien de faire ça avec telle classe dans le cadre de cette activité. »
C'est un métier passion, quoi. C'est toi, ça. T'as même pas envie de couper parce que tu dis... Enfin, par exemple, moi, je sais, mon métier, c'est aussi ma passion et j'ai pas envie de couper parce que je me dis, mais attends, là, si je fais un truc et que je me dis, non, pense pas au travail, ça va rater une opportunité de faire un bête de sujet, un bête de truc, quoi.
C'est ça. Donc, enfin, moi, je suis abonnée à des journaux et des fois, je découpe les articles qui m'intéressent et je les mets dans une pochette en me disant, oh, je pourrais utiliser ça avec les élèves l'année prochaine.
Au cas où.
Au cas où, on sait jamais. Et en fait, souvent, tu fais comme tu peux et avec ouais. Les temps que t'as, mais... Ouais, moi je sais que je ne décroche jamais vraiment.
Au niveau des programmes, vous avez du coup certains points à aborder dans l'année qui est par l'éducation nationale. Toi, tu as une partie que tu as hâte d'aborder et comment tu construis tes cours?
Alors, moi, je les quand j'ai commencé à construire mes cours, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu de changement de programme. Donc, je sais que là, moi, j'ai fait un gros travail pour mettre plus de femmes. Parce qu'en fait, on a des programmes où on parle pas trop des femmes en histoire. Et ça, moi, ça me manquait vraiment. Donc là, par exemple, mon cours sur la Révolution française en 4e, qui est un cours qui est très lourd parce que la Révolution française, c'est infini. J'ai enfin trouvé, après plusieurs essais, parce qu'en fait, tu testes en classe aussi. Là, tu te dis, oh non, ça va pas. Moi, des fois, à la fin de mes cours, je me note des choses pour l'année suivante en me disant, modifie ça.
Okay.
Et là, j'ai trouvé un format de cours qui me plaît bien. Je le trouve pas trop mal. Je vais le retester cette année. Et là, je me suis dit, bon, ça manque de femmes, donc je vais réinjecter des activités sur les femmes. Donc là, en ce moment, moi, je travaille comme ça, où maintenant que mes cours sont à peu près calés, je m'autorise à enlever complètement des choses pour en rajouter des nouvelles qui me font plaisir. Et après, moi, j'ai découvert le programme de 6e. En histoire, c'est chronologique. Donc en fait, tu commences par l'Antiquité pour finir à l'époque contemporaine en 3e. Et c'est pareil au lycée. Et le programme sur l'Antiquité en 6e, moi, m'a fait vraiment redécouvrir cette période-là. Et par exemple, on a un cours sur les... que je suis en train de faire en ce moment, les premiers états, les premières écritures, juste après la préhistoire. Et souvent, ce qu'on fait classiquement, c'est l'Égypte, parce que l'Égypte, ils connaissent et tout ça. Moi, l'Égypte, ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie un peu parce que justement, ils connaissent. Donc moi, je leur fais un cours sur la Mésopotamie. Je crois qu'on doit être 3 en France à faire ça, mais parce qu'on a le choix entre les deux. Et moi, j'ai construit tout un cours qui me plaît vraiment, où voilà, avec les élèves, je leur montre vraiment des petites tablettes d'argile et à quoi sert l'écriture. Et ça, j'aime bien, moi, essayer de leur montrer comment l'histoire est faite. Et je trouve que ça, c'est vraiment super. Et en géographie, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ce que j'appelle les ateliers cartographiques. Okay. Où en fait, on se pose et on fait des cartes, on fait des schémas. Parce que moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et on réfléchit différemment. Et les cartes, c'est un mode de réflexion sur un autre support. Et ça, moi, j'aime bien.
Oui, c'est important en fait que tu construises des cours qui te plaisent aussi à toi. Ouais. Parce que c'est en étant passionné, en ayant envie de leur faire, de leur faire apprendre, qu'eux vont être aussi... parce que tu as des profs... Enfin, je sais pas, mais je pense qu'au moins un en France qui est juste en mode, il applique carré, machin. Et puis, quand t'es un élève et que t'écoutes quelqu'un qui te parle juste comme ça, ça c'est peut-être moins parlant. Donc, c'est trop cool que tu construises les choses en aimant vouloir faire transmettre, quoi.
Ouais. Et là, en plus, comme je disais tout à l'heure, sur le fait qu'ils manquent d'ouverture culturelle là où je suis, moi, j'avais très envie, en cinquième, depuis longtemps, de changer mon cours sur le Moyen-Âge et les seigneurs et tout ça, les chevaliers. Et j'avais pas trop trouvé de porte d'entrée, et puis j'ai découvert une BD qui est super à ce sujet. Donc on fait tout un travail d'enquête à partir de la bande dessinée. Et ça, c'est pareil, ils sont avec soit les ordi, soit les iPads, et puis ils lisent la BD en numérique, donc ils apprennent à gérer le support. Et ensuite, ils répondent à l'enquête, et à partir de ça, moi, je construis un cours qui est quand même un peu solide scientifiquement. Moi, je tiens beaucoup à ce que les élèves, ils se posent quand même pour qu'ils écrivent la leçon. Parce que je trouve que pour construire sa pensée et puis pour amener aussi la réflexion, être en capacité d'écrire, surtout qu'on a un public qui lit moins et qui écrit moins qu'auparavant, c'est important que tu aies aussi un exemple d'un cours bien construit. Et donc c'est important pour moi qu'ils écrivent. Moi ça je leur dis en début d'année, je dis vous allez voir, on va pas forcément faire beaucoup de pédagogie par le jeu parce que c'est pas trop ce que j'aime. Moi je vais vous faire écrire, mais c'est parce que c'est comme ça que moi je construis mes cours et c'est aussi ce avec quoi je suis à l'aise. Et ça je pense que c'est essentiel pour que les élèves y soient réceptifs. Il faut faire des cours qui nous correspondent. On peut s'inspirer de ce que fait moi, mon collègue, on est deux en histoire géo. On parle beaucoup, on échange beaucoup, mais on n'a pas les mêmes manières de faire parce qu'on a deux personnalités différentes. Et ça, je crois que les élèves, quand ils le comprennent, ils nous le rendent bien.
Et là, on est dans... Enfin, t'as des élèves jeunes, du coup. En sixième, je sais pas si... Ils sont pas sur les réseaux, en sixième. Si. J'allais te demander, est-ce que, du coup, c'est difficile de gérer des gens qui... Enfin, des élèves qui sont maintenant très sur les réseaux, très...
En fait, nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'on a du mal à intervenir, surtout sur des cas de harcèlement, quand c'est sur du... Enfin, quand c'est du digital, quoi. Mm. Quand c'est en ligne, nous, on n'a pas... En plus, c'est plus dans l'établissement scolaire.
Ouais.
Alors moi, je n'ai aucun problème de téléphone en classe. Ça, là-dessus, je trouve qu'ils sont
Non. Ah, c'est bien.
Ils ne le sortent pas, mais jamais. Hein. J'ai jamais eu de soucis d'un élève. Alors si, des fois, c'est les parents qui appellent et puis le téléphone n'est pas éteint. Mais enfin, je veux dire, j'ai peut-être eu deux soucis comme ça, mais moi, jamais eu de problème de téléphone sorti en classe. C'est... Donc je trouve que là-dessus, ils sont quand même plutôt bien disciplinés. Après, c'est vrai que je pense qu'ils voient beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas voir.
Ouais.
Et beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. On a aussi un travail à faire d'éducation aux médias, mais on n'a pas beaucoup de temps et on n'a pas beaucoup de moyens.
Vrai que c'est... Parce que moi, je sais, quand j'étais au collège, tu vois, on jouait dans la cour, c'était... On dirait que j'ai 50 ans quand je dis ça, mais genre des trucs, des cartes, des billes, machin. Et là, j'ai moi, mon petit frère, bon là, il est en CM2, il rentre en 6e, mais mon autre, il est en... Punaise, il est en seconde. Oh mon Dieu, il est hyper grand. Je croyais que j'allais dire 4e, pas du tout. Oh mon Dieu. Et maintenant, c'est que ça, tu vois, à la cour, ça parle des youtubeurs, ça parle... tout à l'heure, là, on était dans la salle, les trucs Kwakubé, machin et tout. Tu disais que tu retrouves tout le temps en cours. Et c'est vrai que ça doit être une autre manière d'aborder les choses parce que c'est d'autres sujets, c'est peut-être moins enfantin que les choses qu'on avait avant, quoi.
Ils gardent quand même ce côté enfant, mais c'est vrai que je pense qu'ils voient des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'aussi sexuellement ils doivent voir passer des choses qui sont pas tout à fait de leur âge et ça demande aussi beaucoup d'engagement de la part des parents parce que le contrôle parental sur les réseaux et sur les téléphones je pense que c'est un sujet de conflit déjà parce que c'est addictif et tout ça et aussi nous on est confrontés au défi TikTok par exemple, ça c'est sûr, il y en a on essaie de se tenir un peu au courant puis c'est vrai que
ce qu'ils vous font quoi et...
ça peut être des trucs de danse, l'année dernière il y avait eu quoi? Il fallait se mettre la tête dans les bras, tous en même temps. Et quand le prof disait un mot, tous relevaient la tête. Enfin,
Ils font des TikTok du coup avec vous
Ils sortent pas le téléphone, mais ils font des défis type TikTok des fois. Là, on les avait bien recadrés, mais puis dans la cour, ils font des choses comme ça. Après, moi, je leur dis, vous savez, les élèves, ils pensent qu'on est tout le temps vieux. Ils n'ont aucune notion de l'âge, hein, quel que soit. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et moi, je leur dis, vous savez, on est vieux. OK, on est très vieux et très, très sourds et très aveugles. Ça et ça, ils en sont persuadés. Mais en fait, non, on est au taquet. Enfin, moi, je regarde Twitch, je regarde YouTube, je sais des choses. Puis même des fois, on s'écoute énergie pour être un peu au taquet sur les derniers titres, quoi. Mm. Mais ils le font un peu. Après, je pense que moi, quand j'en discute des fois avec mes grands-parents ou mes beaux-parents, ils faisaient des trucs en classe.
Ah ouais,
ouais. Franchement, nous on n'a plus ça. Hein.
Il faisait quoi?
Moi, mon beau-père, il me racontait que.
Parce qu'il était aussi prof.
Lui, il était CPE dans son métier, okay. Mais il me racontait quand lui il était au lycée, donc je sais pas, dans les années 70, il y avait des élèves qui s'étaient achetés des lunettes sans verre et que ce qu'ils s'amusaient à faire, c'était de se gratter l'œil à travers les verres de lunettes pour voir le prof qui comprenait pas ce qui se passait en classe. Ça, des trucs comme ça. Ouais. Nous on a plus ça.
C'est vrai que c'est très tordu.
C'est complètement tordu. Moi, les élèves, ils font pas ça en classe.
Ouais, non,
Et en fait, je me dis, ils font des bêtises différentes. Et souvent, on dit, oui, avant, c'était mieux, tu parles. Moi, je pense qu'il y a des années, c'était vachement plus dur que maintenant. Hein, où ils faisaient des trucs beaucoup plus vénères. Hein.
Ouais, là, tu nous disais tout à l'heure, là, ils se volent des petits quatre couleurs. Et...
Mais oui,
voilà, quoi.
Mais voilà, ils font du trafic de quatre couleurs. Ça, on le sait. On sait combien vaut un quatre couleurs et quel type de quatre couleurs vaut plus cher qu'un autre. Et ça peut créer des conflits, mais ça reste gentil.
Oui.
Voilà. Après, on est confronté à des choses beaucoup plus dures parfois, mais c'est à la marge. Hein. Mm. Moi, je trouve que globalement, pas trop de problèmes. Hein. En tout cas, là où je suis maintenant, ça va.
Oui.
Puis même, tu vois, de mes expériences d'avant, il n'y a pas des choses vraiment tordues qui me viennent à l'esprit. Je pense que c'est plus dur quand ils sortent de l'établissement, quand les téléphones sont rallumés,
ouais.
Nous, dans le bus, parce qu'ils font du ramassage scolaire, ou après, quand ils sont en dehors du collège et que là, nous, notre autorité, elle s'arrête là. Je pense que là, c'est plus compliqué pour eux.
Et t'essaies, par exemple, quand il y a des réunions parents-prof, d'en parler un peu aux parents de ça?
Ouais. Il n'y a pas très longtemps, moi, j'ai fait un petit message sur Pronote, qui est notre logiciel de gestion pour plein de choses, les devoirs, ce qu'on fait en classe, et puis les parents, ils peuvent nous écrire dessus. Et j'ai envoyé un message aux parents de la classe dont je suis professeure principale en disant, là, en fait, ils sont crevés, faites dormir vos enfants.
Ah ouais?
Ouais. Alors, je ne l'ai pas formulé comme ça, c'était un peu plus long. Mais c'est vrai que c'était... Retour des vacances de la Toussaint, un lundi matin, c'est pas normal que j'ai 20 sixièmes qui baillent et qui ont des cernes. Donc ça, moi, maintenant, je me permets de le dire. Au début de ma carrière, c'était plus compliqué.
Ouais.
Maintenant, j'ai un peu plus d'assurance. Et puis après, des fois, effectivement, on fait des réunions avec des parents qui nous disent « Bah oui, c'est compliqué, le téléphone, ça crée des conflits. Ok, t'as du mal à l'école, à quelle heure tu te couches? Ah, t'es au lit à 22h30, ça fait un peu tard quand t'as 11-12 ans.
Ouais.
Puis tu t'endors à quelle heure? Ah bah tu sais pas, parce qu'en fait, tu regardes des réels ou des shorts sur YouTube. Bon bah peut-être que quand maman ou papa, ils te disent de laisser le téléphone, tu écoutes. Et puis peut-être que comme Noël approche, tu pourrais... acheter un réveil ou demander au Père Noël un réveil, ce serait bien, hein? Wink, wink, papa et maman. Et des fois, ça, on se permet. Mais c'est aussi compliqué parce que bah, chacun fait en fonction de ses capacités parentales et puis du nombre d'enfants qu'il a et des conditions dans lesquelles ils vivent. Moi, je sais que quand j'étais en banlieue, bah, les parents, ils avaient des métiers compliqués, durs, avec des horaires décalés. Ils font aussi ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs. Hein. Mais oui, maintenant, moi, je me permets un peu de le...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'aimerais faire un petit aparté sur le harcèlement scolaire, parce que malheureusement, c'est très présent dans beaucoup d'établissements et c'est pas... Enfin, je pense que tout le monde est au courant, mais je le redis, c'est pas OK de... persécuter un élève juste parce que c'est drôle, juste parce que bah, oh, il est tout seul, il mange à la cantine tout seul, oh, il n'est pas habillé comme nous, etc. Ça peut avoir de vraies répercussions et il y a eu malheureusement beaucoup de drames à cause de ça. Est-ce que toi, tu as déjà été dans un établissement où il y avait du harcèlement envers un élève?
Toujours. Après, c'est plus ou moins facile à détecter. Moi, je tiens vraiment à ce que dans ma salle de classe, il n'y ait pas de ça. Donc là-dessus, moi, je suis très ferme avec les élèves. C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit à un mot plus haut qu'un autre. Moi-même, j'ai subi du harcèlement parce que j'étais particulièrement grande quand j'étais au collège et donc c'était pas facile. Moi, j'ai eu des parents qui étaient très présents et qui m'ont beaucoup accompagnée. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais sur les temps de récréation entre midi et deux. Après, il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est vrai que on n'a pas toujours les moyens ou le temps de lutter contre comme on le souhaiterait, aussi bien qu'on le souhaiterait en tout cas. Après, on est tous très vigilants.
C'est quoi les choses qui... C'est horrible de dire ça, mais les harcèlements qui sont le plus en fait.
Il y a beaucoup... Ça peut être des insultes répétitives. Ça peut être des choses qui sont relayées sur les réseaux. Et puis après... on en parle beaucoup aussi du harcèlement. Les insultes, c'est vraiment ce qui revient beaucoup. Mmh. Après, on parle beaucoup aussi du harcèlement, et ce qui est très bien, parce que je trouve ça important. Mais les élèves aussi, c'est un peu anxiogène parfois pour eux. Parce que notamment au mois d'octobre, il y a la semaine de lutte contre le harcèlement, ouais. Ce qui est très bien. Mais moi, j'avais prévu un cours d'éducation morale et civique là-dessus, et en fait, je l'ai reporté. Parce qu'ils ont entendu parler de ça, que de ça, pendant une semaine entière. Mmh. Alors, à faire plein d'activités autour, mais ils m'ont quand même dit qu'à la fin, c'était un peu lourd. Ouais. Donc moi je leur ai dit bah écoutez le cours que j'avais prévu on le fera plus tard et ça je leur ai expliqué puis ils l'ont plutôt bien accueilli mais on en parle tout le temps et on fait toujours attention et puis après bah, y a des élèves qui viennent nous en parler parfois alors à nous les enseignants ou à d'autres adultes de l'établissement et puis on fait des entretiens et on voit ce qu'on peut faire et on intervient, ça arrive de sanctionner mais on essaie vraiment de faire de la prévention et d'accompagner au mieux et puis après vraiment dans les cas les plus graves quand l'institution scolaire, elle n'a plus les moyens, bah nous, on recommande de porter plainte et en fait que ce soit la justice qui prenne le relais. Mmh. Alors ça, c'est vraiment très, très rare, mais c'est vrai qu'on fait attention à ça, à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut voir. Et puis, on en parle beaucoup entre nous, les adultes, pour essayer justement de limiter ces...
De trouver des solutions. Ouais, mais... Ouais. Mais c'est vrai que là, j'ai vu, justement, pour la journée, dans la semaine de lutte contre le harcèlement, ils ont fait circuler des infos. Avant, c'était l'élève harcelé qui changeait de collège, de lycée. Maintenant, maintenant, c'est le harceleur qui change. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, le premier réflexe, c'est d'en parler à un adulte, que ce soit des parents, des surveillants, des CPE, des enseignants, ou même, si vous ne voulez pas en parler à vos parents, aux parents d'une copine. Et si jamais, il y a dans tous les cas un numéro d'urgence qui est gratuit, c'est le 3020, où vous pouvez appeler, vous confier, et comme ça, vous aurez toutes les clés pour sortir de ce schéma. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir honte, parce que... c'est pas ok et c'est normal d'en parler en fait.
Ouais, puis il faut pas avoir peur des répercussions parce que souvent c'est ce qu'ils disent. J'ai peur si jamais j'en parle que ce soit pire. Et en fait, quand on en parle, ça débloque les situations et c'est vraiment très rare que ça s'aggrave derrière. Enfin, souvent au contraire, ça permet de solutionner les choses. Faut surtout pas rester seul.
Est-ce que tu trouves, parce que t'es jeune quand même, comme tu disais, les élèves te ne donnent pas d'âge, mais on voit quand même que tu n'as pas 70 ans quoi. Est-ce que c'est dur de se faire respecté par les élèves, sachant que t'as pas énormément de différences d'âge, et aussi par les parents.
Les parents, je pense que ça peut être compliqué avec certains profils de parents, mais moi, j'ai pas eu ces difficultés-là, je sais que ça existe. Après, avec les élèves, moi, j'ai fait des changements. Je suis passée aux chemises, j'ai évité de porter des baskets... tout le temps. Maintenant, j'en porte et tout ça, mais j'ai fait un peu attention à mon style vestimentaire. Je me maquillais très peu avant d'être enseignante. Par exemple, moi, je supporte pas de... c'est bête, hein. Mais que les élèves, ils voient mes cernes, c'est parce que je renvoie une image fatiguée et je veux pas qu'ils le voient. Donc, moi, depuis que je suis enseignante, j'ai découvert l'anti-cerne. Voilà. Et ça, je fais attention, chose que avant, je m'en contrefichais. Et puis, malgré tout, je pense que moi, ma taille joue beaucoup. Parce que ça fait toujours son petit effet. Après, j'ai des collègues qui sont tout petits ou toutes petites et qui ont une autorité de fou. Mais ça se travaille et ça se construit, l'autorité et la relation aussi avec les élèves. Moi, je pense que plus les règles sont claires, plus on est au clair aussi, nous, avec ce qu'on veut mettre en place dans notre classe, plus c'est facile. Mais ce n'est pas évident. Il y a des collègues qui mettent des années avant de trouver la formule qui est la bonne. Moi, je crois, de ce que m'ont dit les collègues et tout ça, que... Il y a un petit côté quand même un peu impressionnant qui joue en ma faveur, ça c'est sûr. Et puis moi, l'expérience d'AED et d'animatrice aussi avant m'a énormément aidée. parce que je savais ce que c'était qu'un élève de quatrième avant d'en avoir en classe. Et même si je ne le travaillais pas, enfin, c'était autre chose d'être enseignante, mais je savais ce que c'était qu'un élève qui est un enfant, en fait. Et ça, ça joue aussi énormément. Moi, je pense que c'est plus dur pour les collègues qui n'ont pas cette expérience-là. Et je l'ai vu aussi avec mes jeunes collègues qui ont été surveillants avant ou qui ont bossé avec des enfants dans d'autres professions. Ça aide quand même énormément.
Déjà, bah, je voulais dire bravo à tous les profs. Moi, je sais que j'ai eu deux profs d'histoire géo au lycée, surtout ça m'a marqué, qui, je pense, c'est grâce à elle que j'ai eu mon bac, parce que vraiment, j'ai une bête de notes en histoire et c'était trop bien histoire géo. Donc vraiment, bravo, merci à elle et merci à tous les profs qui font des efforts comme toi à faire des cours hyper intéressants, qui changent, qui voilà, sont dynamiques et interagissent vraiment avec les élèves, parce que c'est une différence de fou en tant qu'élève d'aller dans un cours où tu sens que tu es vraiment là parce que bah, le prof a envie de t'apprendre et a envie de te faire passer un bon moment, plutôt que des cours où bah, tu es juste assis et t'écoutes et au final tu finis par dormir ou par plus du tout écouter et décrocher. Donc vraiment bravo, parce que c'est un travail quoi, et c'est, je pense que tous les jours quand tu as affaire à des enfants qui te font des petites réflexions, des petits trucs, tu as juste envie des fois de péter un câble, mais je sais aussi qu'il y a des élèves, malgré des hyper bons profs, bah juste comme on disait au début, ils sont pas faits pour apprendre, en tout cas de cette manière, et ils décrochent facilement, même s'ils ont super envie, ils arrivent pas. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces élèves qui peut-être ils arrivent pas à se retrouver vraiment au collège ou dans la manière d'apprendre, mais ils sont un peu perdus quoi?
Moi, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à aller en parler avec un enseignant avec qui la discussion se passe bien, parce que quand on est capable aussi d'identifier ces difficultés, nous, on peut s'adapter et essayer de mettre en place des choses. Après, il faut aussi, je pense, malgré tout, se dire que quel que soit le projet professionnel qu'on a derrière, il y aura toujours de l'utilité à faire des maths, même si ce n'est pas très drôle, à faire de l'histoire, même si on ne voit pas forcément l'utilité tout de suite. C'est aussi des prétextes pour acquérir des compétences, en fait. Et moi, c'est très bien hein, que les élèves ils sachent plein de choses sur comment fonctionnait la seigneurie au XIe siècle. Mmh. Ça va pas leur servir au quotidien, sauf s'ils font des études d'histoire. Mais c'est un prétexte pour leur faire lire de la BD, pour qu'ils sachent répondre à des questions. Et qu'ils n'hésitent pas aussi à demander à l'enseignant, à la fin du cours, hein, c'est pas forcément pendant le cours, mais c'est vrai que c'est dur pour moi, mais est-ce que vous pouvez me réexpliquer pourquoi c'est utile qu'on apprenne ça? Pour donner un peu de perspective, moi, je sais que j'aime bien l'expliciter ça aux élèves. Voilà, je vous fais faire tel travail parce que je sais que ça vous servira à tel et tel moment. Et puis des fois, le fait aussi dites-vous que ça peut ne pas bien se passer avec un enseignant parce qu'on est deux personnes différentes, des fois juste ça passe pas, et vous en changerez d'enseignant, et des fois ça se passe pas bien. Et puis il y a aussi des appétences personnelles. Moi, je sais que les sciences c'était très compliqué. J'ai pas fait d'études de sciences, j'ai quand même essayé d'aller au bout et de faire ce qui était à faire dans la limite de mes moyens et de mes capacités. Hein. Moi, quand j'avais 11 ans en maths, c'était la lune, quoi. J'étais trop contente. Mais voilà. Et après, essayer de prendre ce que vous pouvez prendre en classe, mais surtout ne pas hésiter à les dire, c'est vraiment trop compliqué, j'ai vraiment du mal. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux? Parce que il y a de l'humain aussi beaucoup là-dedans. Et puis des fois, on sait hein, qu'il y a des élèves avec qui ce sera toujours compliqué. Mais ça n'empêche pas que les relations se passent bien. Et ça peut être un moment aussi pour en discuter tranquillement. Je pense que c'est quand même une option qui coûte pas cher et qui peut se mettre en place facilement.
Même avec les parents, c'est, au final, c'est un peu un trio, quoi. Enfants, parents et professeurs.
Mais ça sera toujours... Si l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est qu'il y a aussi des raisons. Et c'est vrai que, par exemple, si on veut faire un métier de l'artisanat, on n'a pas forcément l'impression que ça va être utile, sauf que quand il va falloir facturer des clients, va quand même falloir savoir deux, trois choses, ce que c'est qu'une TVA, un pourcentage, et ça, ça s'apprend quand même à l'école, sous des formes qui ne sont pas forcément toujours les plus attrayantes pour certains élèves. Mais c'est un peu un passage obligé.
Oui, moi, c'est là où tu grandis le plus, en fait, que ce soit physiquement, dans la tête, mentalement, même culturellement, c'est là où tu prends toutes tes clés. Et du coup, même si vous avez peut-être des difficultés, vous ne voyez pas effectivement l'intérêt maintenant, en fait, dans 10 ans, 5 ans, même, vous remercierez. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants dans le monde qui, malheureusement, n'ont pas accès à l'école et qui rêveraient d'aller à l'école et de faire des cours comme ça. Donc, autant se servir de la chance qu'on a et de toutes les clés qu'on a positivement. Et ça sera forcément utile un jour. Peu importe la vie que tu as après, ça te servira forcément.
Et puis... tu vois, tu le disais toi aussi, que tu as des bons souvenirs aussi à l'école. Et l'école, c'est quand même une grande partie de la vie des enfants pendant très longtemps. Et ça va au-delà de juste ce qu'on apprend. C'est aussi quel adulte on sera et qu'est-ce qu'on va... Moi, je leur dis, quand ils font des travaux de groupe et qu'ils ne veulent pas être avec un tel et un tel, mais moi, je ne vous choisis pas en tant qu'élève, par exemple. Je ne choisis pas mes collègues, les gens avec qui je travaille. Et ça, quand vous serez en entreprise, c'est pareil. Ça commence en cinquième, quand on râle un peu, parce qu'on ne veut pas travailler avec un tel. Mais ça va aussi permettre plus tard d'avoir peut-être un petit peu de recul sur les choses. Et puis... Puis ça va quand même passer vite.
Oui, ça passe très vite.
Ça passe très vite.
J'aimerais bien retourner.
Oui, c'est ça. Après, on se dit, oh, le lycée, c'était quand même
finalement,
pas mal.
C'était quand même bien. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est la fin. Est-ce que pourtant, on a fait le tour de tout ou tu aurais quelque chose à rajouter ?
Non, merci beaucoup. C'était une super discussion.
J'espère aussi, vous qui nous écoutez, que ça vous aura également plu, que vous en aurez appris plus sur le métier et sur, en règle générale, l'apprentissage. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a un nouvel épisode tous les mardis. Donc, je vous dis à mardi prochain pour le prochain épisode. Cordialement, Zoé.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.